Troisième partie. Le lendemain, de bonne heure, Dalphon engagea Luc à l'accompagner dans sa course matinale. Il craignait que le jeune homme, accoutumé à une vie active, ne se ressentît de passer subitement à des habitudes trop sédentaires. Puisque le hasard avait jeté dans son existence, jusqu'alors solitaire, de nouveaux devoirs avec une amitié nouvelle, il en acceptait joyeusement toutes les responsabilités et s'efforcerait d'être pour Luc un sage ami, un frère aîné. La journée s'écoula sans orage. Luc prenait un réel intérêt à son travail, que son chef varia autant qu'il put, l'employant d'abord à un emballage, lui donnant ensuite à frotter des outils qu'on allait expédier. Tout en maniant avec une adresse croissante le papier d'Emery, l'huile fine et les peaux chamoisées, Luc rêvait à sa future invention, à ses perspectives, à Claire, beaucoup aussi à la fille de son patron. Sans doute, après son intrusion de la veille, Pauline le considérait comme un indiscret, comme un rusto sans manière, bon tout au plus à clouer des caisses au fond de l'entrepôt. Cette pensée humiliait prodigieusement l'amour-propre de Luc. Le jeune homme brûlait de se réhabiliter aux yeux de Pauline, mais comment ? « J'irai ce soir à la maison, » dit Luc à son chef quand l'heure de la fermeture approcha. « Ne voulez-vous pas venir avec moi ? Ils seraient tous enchantés de faire votre connaissance. » « Vous croyez ?» dit M. Dalphon avec un sourire peu convaincu. « Ils pourraient bien me faire entendre le contraire si je leur gâtais leur premier dimanche. »« Non, non, » ajouta-t-il, voyant que Luc allait insister. « Vous savez bien qu'aujourd'hui, j'ai à rendre mes comptes au patron. »« Vous m'avez dit, » fit Luc avec un peu d'hésitation, « que le samedi, vous soupiez en haut. Est-ce avec toute la famille ?»« Quelquefois, mais le plus souvent, je suis en tête-à-tête avec le patron. » Nous parlons affaires. » Luc poussa un léger soupir de soulagement. Malgré son affection pour son nouvel ami, s'il l'avait su en relation familière et sur un pied d'égalité avec Pauline, tandis que lui-même était traité de haut en bas, il n'eût pu se défendre d'un sentiment de jalousie. À 7 heures, il prit congé de Dalphon et passa à l'immeuble, comme il appelait son nouveau domicile, pour y faire un petit paquet de quelques objets nécessaires à son expédition. Les 40 francs de sa cousine lui avaient été fort utiles pour payer à l'avance Madame Veuve Nicolet et la remplir ainsi d'une estime sans borne envers le dernier venu de ses pensionnaires. Luc avait aussi insisté pour que M. Dalphon permît qu'il partageât avec lui le loyer de sa chambre, mais son hôte n'y avait pas consenti. « Vous êtes en visite chez moi, avait-il dit, et d'ailleurs vous paierez en gaieté. C'est une monnaie dont je n'ai jamais surabondance. » En traversant la forêt qui lui était familière, Luc siffla ou chanta tout le temps. Vers 9 heures, comme il allait sortir de l'arcade des branches et découvrir le toit de sa maison, la lune se leva, glaçant d'argent les prairies et remplissant d'une lumière opaline la petite combe endormie. Au milieu du sentier, qui glissait comme un blanc sillage parmi les herbes vaporeuses, Luc vit s'avancer 2 femmes que son cœur reconnut de loin. « C'est lui !» s'écrièrent à la fois 2 voix joyeuses. Il se hâta et mit un franc baiser sur la première joue qu'il rencontra, c'était celle de Claire. « Ah, pardon, » dit-il, feignant s'être mépris. « Nous avons calculé à peu près l'heure de ton arrivée et nous venions à ta rencontre, » dit sa mère. « Écoute, voilà ton chien qui te salue aussi. » On entendait un faible aboiement dans la cour de la maison. « Il te sentait en route, bien sûr, » poursuivit Madeleine. « Depuis 1 quart d'heure, il ne faisait que frétiller et s'agiter dans la cuisine. Il a fallu lui ouvrir la porte, et s'il n'est pas avec nous, ce n'est pas sa faute, mais celle de ses pattes. » Comme Luc approchait de la barrière, le fidèle animal poussa un hurlement de joie et vint en se traînant lécher les pieds de son maître. Tout son corps frémissait d'un plaisir passionné, de petits jappements de bonheur s'étranglaient dans sa gorge. « Voilà une convalescence qui a marché, » dit Luc. « La prochaine fois, Lyon me sautera aux épaules. Mais vous me donnez des nouvelles du chien et point de vous-même. » Au moment d'entrer, il s'arrêta sur le seuil et y retint Claire un instant. La pure lumière de la lune, enveloppant la jeune fille de sa blancheur rêveuse, mettait une paisible auréole sur ses cheveux cendrés, autour de son visage aimable, et faisait doucement rayonner ses yeux. En un instant, Luc oublia l'image élégante qui l'avait trop préoccupé, Ces deux journées de vie citadine semblèrent reculer dans un lointain, vaporeux comme un songe. Les idées familières reprirent sur lui leur empire et, par une douce violence, chassèrent toute autre préoccupation. « Ah, qu'il fait bon se retrouver chez soi » s'écria-t-il. « Bien vrai, dit Claire, tu n'es pas encore devenu grand seigneur, monsieur mon cousin. » « Une chaumière et ton cœur, répondit-il en riant. Ils entrèrent dans la grande cuisine où un joli feu de bienvenue et le souper tout prêt attendaient le voyageur. Louis Offrant était sur le seuil, fort impatient de revoir son fils, bien qu'il n'en voulût rien témoigner. C'était pour entendre plutôt ses récits qu'il restait à la maison ce soir, un samedi, au lieu d'aller faire une partie de piquet et manger la fondue au fromage avec ses amis. Il était aussi plus content de lui-même qu'il n'avait coutume, ayant travaillé assidûment depuis 3 jours, soit à son établi, soit à la besogne de la ferme, en attendant qu'on eût découvert le petit domestique qui remplacerait Luc. « Eh bien, mon garçon, comment va ? » demanda-t-il en tendant la main à son fils avec une cordialité inaccoutumée. « Comme sur des roulettes, merci. J'ai eu toutes les bonnes chances, vous allez voir. » « Raconte bien en détail, au moins. » dit Claire en s'asseyant sur une petite chaise basse, les mains jointes sur ses genoux, comme un enfant qui se prépare à écouter une histoire. Tout en soupant de grand appétit, Luc narra donc par le menu les incidents des 2 derniers jours. Cependant, il garda le silence sur Pauline Moller. Instinctivement, il craignait d'effleurer la blessure encore cuisante faite à son amour-propre. En revanche, il s'étendit longuement sur sa rencontre avec Dalphon Renaud, sur la bonté, l'obligeance, l'esprit organisateur et pratique de son nouvel ami. « Comment est-il ? » demanda Claire. « Voyons, décris-le. »« Il n'est pas beau, » répondit Luc à regret. « Il est très myope, ce qui lui donne l'air gauche, mais on l'oublie vite en lui parlant. Il n'y a que lui qui s'en souvienne, et ça le rend un peu sauvage. » « Pourquoi n'est-il pas venu avec toi ?» dit Madeleine. « Nous l'aurions reçu de notre mieux pour le remercier de toutes ses bontés. Si je le voyais, je te recommanderais encore à sa direction, je lui expliquerais ton caractère. Et tu lui raconterais toute mon histoire, y compris ma rougeole et ma première dent, mon penchant pour les groseilles vertes et mes batailles avec le bovis de la rosière, » fit Luc en riant. « Tes batailles avec le bovi, c'était bel et bon, » dit son père d'un ton sentencieux. « Mais ne fais pas le tapageur à ta pension, en ville, ce n'est pas le genre. »« Moi, » s'écria Claire, « j'aime Luc une fois de plus pour avoir su défendre son ami. Raconte-nous de nouveau cette histoire, veux-tu ?» Elle le regardait évidemment comme un héros et ne doutait pas que tous les ateliers de la ville ne fussent remplis du bruit de sa noble conduite. En devinant cette admiration naïve, Luc se sentit presque honteux de lui-même. Ses ambitions lui apparurent bien sèches, ses désirs bien vides et orgueilleux, tandis qu'il les comparait à la tendresse dévouée de ses 2 humbles cœurs de femme. La causerie se prolongea fort tard. Quand on se sépara, Madeleine voulut encore monter avec Luc dans sa chambre sous prétexte de prendre du linge dans l'armoire, mais en réalité pour avoir un instant son fils tout à elle. « Je ne sais, » dit-elle en allant et venant de son pas léger, « si tu as pris garde à Lyon ce soir. Il montre les dents quand ton père s'approche, et si sa faiblesse ne l'en empêchait, je crois qu'il lui sauterait à la gorge. S'il devient méchant, qu'en ferons-nous » « C'est embarrassant, » dit Luc, « il ne m'est guère possible de le prendre avec moi en ville. Mais j'en parlerai à Monsieur Dalphon. » Il avait la conviction très sincère que son ami possédait une clé d'or pour résoudre toutes les difficultés. Ce fut un baiser de sa mère qui le réveilla le lendemain matin. « Lève-toi, paresseux, » disait Madeleine. « Il est 6 heures. Claire est déjà toute prête qui te propose d'aller ensemble à l'église des Brenets. C'est une longue course, mais le temps est splendide et, après tes journées d'atelier, tu dois avoir besoin de te dégourdir les jambes. Viendras-tu aussi, mère ?» « Non, c'est trop loin pour moi et trop pénible, surtout la montée du retour. D'ailleurs, j'ai le dîner à soigner. Mais ne pense pas à moi, nous aurons encore un bon bout d'après-midi à passer ensemble. » Claire, en fraîche toilette du dimanche, buvait une tasse de lait quand son cousin descendit à la hâte. Ses petites dents brillantes mordaient dans un gros morceau de pain bis. D'une main, elle relevait sa robe d'alpaga gris clair pour en préserver l'ourlet de tout contact avec le carrelage, montrant ainsi une bottine forte mais soignée, un fin bas blanc et le bord festonné d'un joli jupon. On voyait que sa marraine lui avait inculqué l'adage de nos grands-mères « Tant vaut le dessous, tant vaut la femme ». « Tu me prends donc pour ton chevalier, aujourd'hui, » dit Luc joyeusement. « Je serai prêt en un tour de main. »« Regarde, » dit Claire lorsqu'ils se furent mis en route. Elle balançait triomphalement un petit panier d'aspect mystérieux. « C'est notre dîner. Nous ne serons pas de retour avant 2 heures de l'après-midi. Aussi aurons-nous un petit pique-nique en chemin. Nous nous amuserons, je te dis. » L'air avait encore toute sa matinale fraîcheur dans la gorge où s'enfonçait le sentier. Des églantines précoces souriaient déjà dans les buissons. Luc en cueillit une, toute brillante de rosée, qu'il offrit à Claire. « Mets-la dans tes cheveux, » fit-il presque involontairement, en pensant aux roses qui ornaient la chevelure de Pauline. « Non, pas là, c'est trop haut. Attends que je te montre. Ici, presque sur le cou. » La tige d'églantine s'emmêla dans les boucles légères qui caressaient une petite oreille charmante. Luc fut très long à démêler le nœud gordien. « Là !» dit-il enfin, en plaçant la fraîche corolle purpurine dans un nid de blonde torsade où ses doigts s'enfoncèrent avec un secret plaisir. « C'est ainsi que les dames à la mode portent leurs fleurs. »« Tu es bien savant !» dit Claire en tournant la tête. « Qui t'a dit cela ?» Luc rougit involontairement et une ombre passa dans les yeux limpides de sa cousine. « Ah, tu fais des cachotteries !» s'écria-t-elle en le menaçant du doigt avec une gaieté un peu forcée. « Ou bien, est-ce une histoire que tu me réservais à moi seule ? Ce serait gentil, cela !»« Je n'ai rien à cacher, Claire. C'est une petite aventure que je voulais te dire seulement quand je me sentirai capable d'en parler sans dépit. » Et il lui raconta ses 2 rencontres avec Pauline Molaire. « Elle est donc bien belle ?» demanda Claire sans lever les yeux quand il eut fini. « Belle ? Non, je t'ai déjà dit que tu es 10 fois plus jolie qu'elle. Mais elle a quelque chose qui ne se décrit pas, du cachet, du montant, comme ils disent en ville. « Parle-moi de sa toilette, Luc. Je n'ai jamais vu une vraie robe de soirée comme il y en a dans les livres. » Tu dis que c'était du satin bleu pâle ? Le ton de la jeune fille exprimait autre chose qu'une simple curiosité. C'était une émotion presque douloureuse qui faisait ainsi trembler sa voix. Elle devinait que Luc était déjà séduit. Elle pressentait qu'il allait entrer sans elle dans un monde où la simplicité n'avait pas cours. Luc sut lire cette crainte dans le regard de sa cousine. « Oh !» fit-il avec un peu d'amertume, « c'est par la porte de service que je vais chez le patron, moi, et tu vois que je n'ai pas battu en retraite d'une façon bien glorieuse. Bah, tenons-nous à notre place, c'est le meilleur moyen de ne pas s'y faire remettre. » Ils cheminèrent quelque temps sans rien dire. Luc se reprochait d'avoir maladroitement jeté une ombre sur leur plaisir à tous deux. « Je regrette de t'avoir raconté cette histoire, » dit-il. « Mais ne veux-tu pas que je te dise tout, cousinette ?»« Et comme tu seras jolie, » poursuivit-il en s'animant, « le jour où je pourrai te donner aussi une robe de satin. Tu es blonde comme elle, tu porteras les mêmes couleurs, et chacun admirera ma petite rose des bois. »« Oh non !» s'écria-t-elle, « Luc, je t'en prie, je ne suis pas faite pour ces belles choses. » Eh bien, tu auras une petite robe gris-souris et nous demeurerons dans une petite maison sur la montagne où personne ne viendra voir ma sauvage petite femme. Aimes-tu mieux cela ? Et gaiement, avec l'heureuse élasticité d'esprit qui le servait si bien, il se mit à faire briller aux yeux de Claire les bulles colorées et fragiles qu'il appelait ses projets d'avenir. Le joli sentier qu'il suivait côtoyait maintenant la rivière au fond de la gorge où elle roulait ses eaux encaissées. Des hêtres et des sureaux croissaient sur la berge et s'inclinaient jusqu'à tremper leurs branches dans les petites vagues qui passaient en dansant. De gros blocs gris et moussus formaient comme des îlots au milieu du courant irrité qui les couvrait d'écume. Quand, par quelque caprice inexpliqué, le chemin s'élevait sur la pente, l'eau n'apparaissait plus que comme un vague scintillement dans la profondeur, mais la rumeur sourde de ses nombreuses cascades la trahissait encore. En deux ou trois passages dangereux, le sentier était bordé d'un garde-fou, sur lequel les deux cousins s'accoudèrent, pour contempler longuement un spectacle qu'ils connaissaient depuis leur enfance, mais dont leurs yeux n'étaient jamais rassasiés. Dans ces gorges où la lumière se concentre, elle éclate et rayonne avec une gloire radieuse, des contrastes éblouissants, des teintes presque méridionales. Elle tombe en pluie d'or à travers la feuillée légère, elle glisse sur l'eau en flèches étincelantes. Elle fait sourire les grands rochers gris et voile le lointain d'une vapeur blonde qui est une caresse pour le regard. Au printemps, quand la rivière gonflée remplit son lit, quand le tendre feuillage frémit partout sous la lumière, le sentier de Mauron est un des plus charmants qu'on puisse parcourir. Déjà, fit Luc, quand ils arrivèrent aux forges qui s'élèvent sur le bord du courant. « Es-tu fatiguée, Claire? Prends mon bras, veux-tu ?» C'était une faveur qu'il n'avait pas osé lui demander plus tôt, quand le nuage de tout à l'heure assombrissait encore sa gaieté. Mais elle avait repris maintenant sa joyeuse confiance et son rire éclatait, aussi frais que le chant des pinsons. À quoi bon répéter leur entretien? Vous, qui avez 20 ans, vous le devinerez sans peine, et les gens raisonnables hocheraient la tête à tant de folie. Du saut du Doubs, le sentier monte au-dessus des grands bassins majestueux où la rivière se repose à l'ombre. Claire, un peu lasse maintenant, s'appuyait plus fort sur le bras de Luc. « Si tu veux, dit son cousin, je te ramènerai par eau. Nous prendrons une barque auprès du lac. » En cet instant, un son harmonieux de cloche leur parvint comme un soupir, puis en une bouffée d'accord que le vent éparpilla. « Dépêchons-nous, s'écria Claire, nous n'avons plus qu'un quart d'heure. Et notre panier, qu'en ferons-nous » ajouta-t-elle avec une subite alarme. « Il viendra à l'église avec nous. Si le pasteur le remarque du haut de la chaire, il comprendra notre position. Chacun mange, allons donc, ça se fait dans les meilleures familles, comme dirait Mademoiselle Julie. » « Ce serait inconvenant, fit Claire très choquée. « Eh bien, trouvons autre chose. » Comme ils arrivaient par une dernière rampe très abrupte, en l'endroit où le sentier rejoint la grande route, Luc cacha le précieux panier dans un fourré où l'on pénétrait à grand-peine. « Bien fin qu'il le découvrira » s'écria-t-il tout triomphant. « Je l'ai mise entre deux grosses pierres et les épines des églantiers montent la garde alentour. » Les cloches faisaient entendre leur dernier tintement prolongé comme un appel quand Luc et sa cousine gravirent les marches de la petite église, blanche et souriante, au milieu des marronniers fleuris. Tandis que la jeune fille allait s'asseoir non loin de la chaire, Luc montait dans la galerie et cherchait à se recueillir. La musique lente des cantiques calma peu à peu ses esprits échauffés. Mais il ne put s'empêcher de chercher du regard, au fond de la nef, certains chapeaux de paille garnis de dentelles blanches qui l'intéressaient plus que tous les chapeaux passés, présents et futurs. Comme il venait de le découvrir et se préparait à en détourner héroïquement les yeux, il vit tout à coup la main de Claire se porter brusquement à ses cheveux, y chercher les glantines oubliées et enfermer précipitamment la pauvrette entre les feuillets de son livre de cantiques. Luc ne put s'empêcher de sourire, car la joue de la jeune fille, que l'aile de son chapeau lui laissait entrevoir, était devenue plus rouge que le feu. Cependant, il chassa de son esprit les distractions voltigeantes, pareilles aux mouches qui tourbillonnaient au soleil derrière les vitraux de l'église, et il suivit tout le service dans un vrai recueillement. Claire s'imagina bien une ou deux fois que des maraudeurs, ayant découvert le panier, faisaient bombance à leurs dépens. Mais la figure grave de son cousin, vers qui elle leva les yeux à la dérobée, lui fit honte de ses pensées étrangères à la sainteté du lieu. « Attends-moi, » chuchota Luc à son oreille quand il la rejoignit près de la porte à l'issue du service. Elle le regarda s'éloigner à grands pas et, tout en se promenant sous les marronniers de la terrasse, tout en admirant leurs tirses roses dans l'épaisseur du feuillage, elle ne pouvait se défendre d'une certaine inquiétude à l'égard du dîner. Mais bientôt, le retour de Luc la rassura. « Complet, » dit le jeune homme en soulevant le couvercle du panier. « Descendons auprès du lac, maintenant. » Ils traversèrent ce charmant village des Brenets, le plus riant, le plus fleuri, le plus coquet qu'on puisse imaginer, puis enfilèrent un chemin bordé d'aubépines et de houblons qui les conduisit en peu d'instants au bord de la rivière. « À propos, dit Luc avec malice, et ton églantine, tu l'auras perdue en route. » « Imagine, dit Claire, tandis que la même rougeur montait encore une fois à ses joues, imagine que j'avais oublié de l'ôter avant d'entrer à l'église. J'y ai pensé juste avant le sermon. J'espère que personne ne l'a remarqué. Tu ris, méchant. Tu le savais? Pourquoi ne me l'as-tu pas rappelé à temps? Mais elle t'allait très bien, cette pauvre petite rose. À l'église, songe donc. Tu as un tas de préjugés. Je vois bien des demoiselles qui enguirlandent leurs chapeaux de roses artificielles aussi grosses que des choux paumés. Une petite églantine prise à la haie ne saurait offenser personne. Ah, voici un batelier qui a l'air bon enfant. Adressons-nous à lui. » Plusieurs barques étaient amarrées sur la grève, attendant les amateurs de navigation. Luc s'entendit avec leur gardien, qu'il connaissait pour l'avoir rencontré à la pêche, et choisit une jolie embarcation à quille plate, moins rapide mais plus sûre que les loquettes. Il promit de l'amarrer solidement près du seau et d'avertir l'hôtelier qui la renverrait dans l'après-midi avec une cargaison de promeneurs. Claire monta lestement dans le bateau. Mais pour aller s'asseoir à l'avant, il fallait enjamber les rames et un banc placé en travers. Le léger mouvement de la barque fit chanceler la jeune fille. Sans la main de Luc, elle serait tombée. « Relève ta robe, lui dit-il en riant. Tu vas t'y prendre le pied et faire un autre malheur. Voyons, n'aie pas si grand peur de montrer ta bottine. On en porte dans les meilleures familles. »« Qu'est-ce que tu entends par là ? » fit Claire en trempant le bout de ses doigts dans l'eau que la rame frappait à coups réguliers. « C'est la seconde fois que tu dis cela. » « Ma chère, tu ne sais pas encore ce que c'est qu'une scie d'atelier. Au fait, on peut te pardonner, je ne le sais que depuis 2 jours. Une scie est une plaisanterie, si tu veux, mais elle a sur les autres genres un avantage. Plus on la répète, plus elle devient excellente. C'est économique, tu vois, ça met l'esprit à la portée des plus petites bourses. On en édite de ces scies 1 ou 2 par semaine. » Elles font la ronde des ateliers et reviennent, revues et corrigées, à leur inventeur. Les apprentis les ramassent pour se donner l'air grand garçon. Hier, comme je demandais à ce singe d'Ernest s'il avait vu la boîte de rouge à polir, il m'a répondu « Elle vient de passer avec un parapluie sous le bras. C'est bête, n'est-ce pas? Mais c'était la scie en vogue et quand on n'a rien de mieux à faire, on en rit. » « Tu es bien aise, je crois, dit Claire, d'avoir changé ton genre de vie. Tu es plus gai qu'autrefois. J'en suis heureuse pour toi, Luc. » Nonchalamment appuyée contre le dossier du banc, les yeux pleins de sourires et les lèvres entrouvertes, elle offrait l'image du plus gracieux contentement. Leur barque glissait sur la nappe tranquille de la rivière, qui s'élargit en cet endroit comme un lac. Sur la pente verdoyante se groupait le joli village qu'ils venaient de quitter et, du milieu des ombrages, montait la flèche élancée de son bijou d'église. Plus loin, la rivière déroulait ses méandres d'argent au milieu des prairies ensoleillées. Mais quelques coups de rame encore et tout change. Des rochers austères, s'élevant à plus de 500 pieds, plongent à pic dans les eaux profondes et enseigne d'une formidable muraille les bassins où l'onde verte semble dormir. Leurs crêtes déchirées se profilent sur le ciel en contours parfois étranges où l'œil croit distinguer, tantôt la forme gracieuse d'une mère penchée sur son enfant, tantôt quelque gigantesque profil, celui de Calvin, de Louis-Philippe ou de Napoléon, étendu sur un mausolée grandiose. Les lignes de ce cirque majestueux, obliquement affaissées et brisées, semblent raconter un prodigieux cataclysme. À des hauteurs où le regard atteint à peine, les roches laissent voir encore la trace des eaux tumultueuses qui montèrent jusque-là comme pour prendre le ciel d'assaut. Par un contraste charmant avec ses beautés sauvages, une petite pelouse descend en pente douce du pied des rochers au tournant de l'un des bassins. Fraîche et riante, elle semble un coin d'idylle dans un poème sévère.